Bonjour à tout le monde. Je vous invite à trouver le livre des Actes des Apôtres et le premier chapitre. Le premier chapitre des Actes des Apôtres. Avant de lire, nous allons prier. Seigneur, merci pour la joie d'être ensemble. Merci pour la joie d'avoir ta parole ouverte devant nous. Merci car tu nous as ouvert les yeux, tu nous as ouvert le cœur pour la conversion. Et nous prions que lorsque nous lisons ta parole, nos cœurs et nos yeux soient toujours ouverts afin de recevoir tes instructions pour notre vie de tous les jours. Amen. Je lis à partir du premier verset du premier chapitre du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il était enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après avoir souffert, il se présenta à eux vivants et leur en donna de nombreuses preuves. Pendant 40 jours, il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. « Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le cacha à leurs yeux. Et comme ils avaient des regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, deux hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel ? Ce Jésus qui était enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu partir au ciel. » Alors, ils retournèrent à Jérusalem dans la colline appelée Mont des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un kilomètre environ. Quand ils furent arrivés, ils montèrent à l'étage dans la pièce où ils se tenaient d'ordinaire. Il y avait là Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Nous allons nous arrêter là. Alors j'aimerais dire quelques mots en introduction avant d'arriver au cœur du message. Le premier mot d'introduction, c'est que nous venons de lire ce qu'on appelle le prologue des Actes des Apôtres. Et dans ce prologue, Luc, qui est l'auteur, introduit plusieurs thèmes. Il est question du Saint-Esprit. C'est un thème qu'on retrouve partout dans les Actes des Apôtres. Il est question de la prière. On retrouve ce thème partout dans les Actes des Apôtres. Il est question du témoignage et des témoins. Et c'est un thème récurrent dans les Actes des Apôtres. Donc il s'agit du prologue avec une introduction des thèmes principaux dans ce livre. D'autres livres bibliques aussi ont un prologue où on introduit quelques thèmes. Par exemple, au début de l'évangile de Jean, dans les 18 premiers versets, on a plusieurs thèmes présentés qu'on retrouve pendant toute la lecture de l'évangile de Jean. Au début du livre de Josué, on a aussi des thèmes présenté, introduit, qu'on retrouve plus tard. Au début du livre de Job aussi, on a plusieurs thèmes qu'on trouve au début et qu'on retrouve plus tard dans le livre de Job. Donc, première remarque, il y a le prologue des Actes des Apôtres. La deuxième remarque, c'est que nous pouvons dire sans honte que les Actes des Apôtres n'est pas seulement un livre, mais aussi une lettre. Vous avez remarqué, il dit « Cher Théophile ». C'est une lettre, une épître qu'il écrit à un ami, Théophile. Et il s'agit de la deuxième lettre que Luc, le médecin, écrit à Théophile. La première lettre, c'est l'évangile de Luc. La deuxième lettre, c'est donc les Actes des Apôtres. Théophile, c'est un beau prénom. Vous savez ce que ça veut dire? Ami de Dieu. Il y a pas mal de chrétiens qui donnent le nom Théophile à leur enfant. Et pourquoi pas? Théophile, ami de Dieu. Et ce que Luc dit ici, il dit, j'ai déjà écrit dans mon premier livre, ou dans ma première lettre, ce que Jésus a commencé de faire. Et ici, dans sa deuxième lettre, il dit ce que Jésus va continuer à faire. Si vous voulez une précision, on peut dire, dans l'évangile de Luc, Luc explique ce que Jésus a fait à travers son corps physique, humain. Et dans les Actes des Apôtres, Luc écrit ce que Jésus va continuer à faire au travers de son corps spirituel, c'est-à-dire l'Église, les chrétiens. Troisième remarque, en introduction, si on mettait les écrits de Luc bout à bout, l'Évangile et les Actes des Apôtres, on constaterait que Luc a écrit plus de choses que l'apôtre Paul. Même si Paul a écrit 13 épîtres, certains disent 14, mais au moins 13 épîtres que nous avons dans le Nouveau Testament, eh bien, on constaterait que Luc a écrit plus de choses que l'apôtre Paul. Voilà les trois remarques d'introduction. Alors, avec ce texte qu'on vient de lire, ces 14 versets, j'aimerais juste souligner quatre détails qui m'ont frappé dernièrement dans ma lecture de ce chapitre. Le premier détail, ce qui me frappe, c'est on parle de la réalité. Alors, il ne s'agit pas, il n'y a rien à voir avec la télé-réalité dont on nous bombarde parfois à la télé, mais il s'agit de la vraie réalité des choses. C'est-à-dire la réalité de la résurrection de Jésus. C'est un fait historique, aucun doute, selon Luc, Jésus est vivant. La réalité de l'ascension de Jésus. Aucun doute, un fait historique, Jésus est remonté au ciel. Et chaque année, en France, et c'est pas dans tous les pays, c'est un jour férié, le jeudi de l'ascension. Et un fait historique. Il est question de la réalité du royaume de Jésus. Le royaume de Dieu. C'est aussi un fait historique, c'était établi et ça va être établi ou réétabli à l'avenir. Il est question de la réalité du retour de Jésus. Les anges, ces deux hommes habillés en blanc sur le mont des Oliviers, disent « Jésus va revenir ». Jésus le dit lui-même. Mais ici, ce sont les anges qui disent « Il va revenir physiquement, corporellement, personnellement, visiblement ». Il s'agit d'un fait historique, mais un fait historique futur. Hein? Il n'est pas encore revenu. Mais quand il reviendra, Apocalypse 1 nous dit, tout œil le verra. Et il y a aussi, bien sûr, la réalité de la mort de Jésus. Luc commence par dire, mais Jésus, après avoir beaucoup souffert, s'est montré à plusieurs reprises à ses disciples. Un fait historique. La réalité des choses. Le deuxième détail, c'est que le commandement que Jésus donne au verset 8 n'a jamais été annulé. C'est-à-dire, il dit à ses premiers disciples, « Vous serez mes témoins. » Et depuis 20 siècles, Jésus dit à tous ses disciples, à tous les chrétiens, « Vous serez mes témoins. » Acte 1, verset 8. À la fin de l'évangile de Matthieu, chapitre 28, versets 19 et 20, Jésus dit aux mêmes disciples, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur tout ce que Dieu vous a prescrit. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ces deux commandements n'ont pas été annulés et sont toujours bons pour nous aujourd'hui en 2015. Être des témoins. C'est un grand thème, comme je disais, qui revient plusieurs fois dans les Actes des Apôtres. Le mot témoin ou le verbe témoigner revient à peu près 30 fois. Plusieurs fois, les apôtres disent, nous sommes les témoins. Dieu nous appelle à témoigner. Et si eux, ils devaient témoigner, eh bien nous aussi, nous devons témoigner. Vous savez ce que c'est un témoin dans le monde de tous les jours? C'est quelqu'un qui explique au juge ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, ce qu'il a ressenti quand il y a eu un accident ou un incident. Et un chrétien qui est témoin explique tout simplement ce qu'on a vu, ce qu'on a reçu, ce qu'on a entendu, ce qu'on sait au sujet de Jésus-Christ. Il y a midi, nous étions, Brigitte et moi, on était invités pour les 75 ans d'une tante de Brigitte, une sœur, une petite sœur d'Albert. Et on avait pris le matin avant de partir, Seigneur, on sera avec 35 personnes, tous inconvertis, à part Albert et nous, et on a prié, Seigneur, aide-nous à saisir des occasions, si on peut, pour témoigner. Et bien sûr, c'est facile, dans un sens, pour moi, parce qu'étant étranger, et puis les cousins, les cousines, et les tontons, les tatas disent, alors David, il paraît que, oui, qu'est-ce qui t'a fait dans la vie? Pourquoi tu es en France? Qu'est-ce qui t'a fait venir en France? Donc, pour répondre à ces questions, c'est facile. Et puis, il y a des gens qui ont commencé à dire, ah oui, mais, tu sais, je suis catholique. Ah oui, tu es catholique. Hein? Tu vas à la messe tous les dimanches? Oh non. Et puis, tu vas aller au ciel après la mort? Oh non, après la mort, il n'y a rien, David. Alors, à cette cousine, j'ai dit, oh là là, tu es une mauvaise catholique. Hein? Une vraiment mauvaise catholique. Et puis, il y a quelqu'un d'autre qui me dit, ah, tu sais, David, je suis athée. On n'y a pas de Dieu, on n'y a pas de Dieu. Ah, ouais. Puis on discute, un prof de droit, ce gars-là, et puis il me dit, il commence à citer par cœur, son signe astrologique. Et il me relate ce que le signe lui dit. Et j'ai dit, je suis étonné de t'entendre dire, je réponds, je suis étonné de t'entendre dire que tu crois à l'astrologie, que c'est beaucoup plus logique de croire en Dieu que de croire à l'astrologie. Oh non, David, je ne crois pas à l'astrologie. Enfin, je le dis chaque semaine, mais je n'y crois pas. Bon, en tout cas, on a pu avoir quelques conversations, donc c'est important, et c'est important d'être un témoin, mais c'est difficile d'être un témoin dans nos propres familles. Moi, étant de l'extérieur, j'ai quelques privilèges ou droits que certaines personnes n'ont pas. Mais en tout cas, cet ordre que Jésus a donné sur le témoignage n'a pas été annulé. Et pour nous tous, en 2015, Jésus nous dit, vous serez mes témoins. Au sujet du témoignage, nous étions, comme certains savent, il y a 15 jours, on a passé 4 jours à une conférence internationale. On était 700 personnes de 100 pays différents. Et tous les soirs, il y avait des témoignages des frères et sœurs qui témoignaient de ce que Dieu fait dans leur pays. Et c'était frappant de voir que Dieu est à l'œuvre dans des pays. On ne lira jamais dans le Dauphiné libéré ou dans le Progrès ou dans Ouest-France. Hein. On n'entendra pas jamais parler aux infos de 20h. Mais ces frères et sœurs nous ont partagé des choses. Hein. Je donne quelques exemples. En Jordanie, aujourd'hui, il y a plus de 500 000 réfugiés qui sont là. Et il y a une association chrétienne qui s'appelle Manara, et selon le frère Manara, c'est arabe pour phare. Eh bien, cette association a la bénédiction des autorités pour aller amener des couvertures, donner des médicaments et donner des bibles à ces réfugiés qui viennent en Jordanie. Et ils voient des dizaines de personnes qui se convertissent. Dans le pays du Bhoutan, le Bhoutan c'est à côté des Indes, eh bien, là-bas, il y a moins de 1 million d'habitants. Depuis 7 ans, être chrétien, c'est être hors la loi. Il est interdit d'être chrétien au Bhoutan. Mais il y a des frères indiens qui traversent le frontière de temps en temps et qui évangélisent. Et ils ont décidé de traduire des CBC, des cours bibliques, en langue bhoutan. Alors je suis sûr que vous savez tous comment on appelle la langue qu'on parle des Bhoutanais. Il s'est dit du Dzongkha. Et nous avons un CBC en langue Dzongkha. Alors si vous parlez de Dzongkha, je veux bien vous les donner. Sinon, je les garde dans mes archives. Mais Dieu fait des choses là-bas. Il y a 70 personnes qui suivent ces cours bibliques en langue Dzongkha, mais en cachette. Parce qu'ils savent que s'ils le disaient à des amis non chrétiens, ils risqueraient la prison ou pire. Parce que les chrétiens là-bas perdent leur emploi. Quand ils veulent être embauchés, ils ne sont pas embauchés et ils ne sont pas promus dans leur emploi parce qu'ils sont chrétiens. Il y a d'autres exemples, il y a un frère d'Israël qui habite à Nazareth et qui a la seule maison d'édition chrétienne en arabe en Israël. Je répète ça. Il a fondé la seule maison d'édition chrétienne en arabe en Israël. Il a une librairie pour les touristes et il vend des bibles. Il a fait imprimer des bibles en 8 langues différentes, français, anglais, allemand, portugais, etc., pour les touristes. Et il a fait travailler une entreprise de musulmans, et cette entreprise met des couvertures sur ces bibles en bois d'olivier d'Israël. Alors, les touristes qui voient une bible avec du bois d'olivier d'Israël, ah ben, ils achètent. Peut-être pour des raisons superstitieuses, ou peut-être pour raisons, pour avoir des bons souvenirs. Eh bien, ce frère, il vend ses bibles, ça se vend comme des petits pains, et il évangélise les touristes, mais il évangélise aussi ceux qui parlent l'arabe, surtout en Israël, en Palestine, en Égypte et en Jordanie. Et ce frère, il habite à Nazareth depuis 40 ans, avant de servir le Seigneur à plein temps. Vous savez quel était son métier à Nazareth? Oui, charpentier. Curieux, hein? Charpentier converti à Nazareth et il évangélise son peuple. Alors, est-ce qu'on peut juste passer quelques photos? Ah oui, oh, c'est... Bon, ok, on va passer au suivant, à la suivante. On voit très mal à cause de la luminosité. Oui, c'est dommage. Bon, ça c'est Cornel qui travaille en Roumanie. On va continuer. Un autre frère, Vladimir, qui travaille en Serbie. Ah, je pourrais raconter aussi des choses. On va continuer. Ça c'est un frère qui travaille en Ukraine. Yuri. Il s'appelle Yuri Yur. Parce qu'il a voté... Yuri Yur, c'est presque la même chose pour son prénom et son nom de famille. Il travaille en Ukraine, on va continuer. Henri, il travaille en Albanie. Et il y a un réveil en Albanie depuis 25 ans. On va continuer. Un couple qui travaille en Angola. J'ai pris la photo parce que c'est un beau couple, mais aussi parce que leurs habits sont vraiment intéressants. Un couple, David et Rachel, qui travaillent au Tchad. Un frère qui travaille en... Ça, c'est le frère qui travaille au Bhoutan. Et puis, ensuite, c'est le frère qui travaille en Mongolie. Je n'avais jamais rencontré quelqu'un de la Mongolie avant la semaine dernière. Eh bien, ces frères et sœurs... Merci, on peut éteindre. Oh oui, pardon, une sœur de Burundi. Elle et son mari servent le Seigneur au Burundi. Et puis, un frère au Pakistan, où il y a aussi des bénédictions, mais beaucoup de persécutions. C'est peut-être la dernière. Voilà, rendez-nous. Merci bien, Mélanie. Donc, ces frères et sœurs nous ont raconté des choses et on s'en compte, même si on voit pas ça aux infos, Dieu est à l'œuvre. Et il y a des témoins, des gens normaux comme vous et moi, enfin, si vous croyez que je suis normal, mais des gens normaux comme nous, qui dans leur petit coin, servent le Seigneur, vivent pour le Seigneur, parlent du Seigneur comme des témoins. Et par leur témoignage, Dieu fait des merveilles. Donc, deuxième remarque, nous devons tous être des témoins là où Dieu nous a placés. Troisième remarque, selon Actes, chapitre 1, verset 1 à 14, et c'est le dernier verset, tous persévéraient d'un commun accord. Les disciples étaient ensemble. Ils venaient de quitter le mont des Oliviers, ils avaient rencontré des anges, rien que ça, ça pourrait nourrir pas mal de conversations. Ils sont revenus, ils sont restés ensemble, après avoir été au mont des Oliviers, à 1 kilomètre de Jérusalem, ils reviennent à Jérusalem et ils se réunissent dans la pièce où ils avaient l'habitude de se réunir. Alors, est-ce qu'il s'agit de la chambre haute, là où Jésus a pris son dernier repas? Il est fort probable. Je me suis même posé la question, est-ce que les disciples avaient signé un bail pour louer cette chambre haute, cette grande pièce? Un bail commercial, un bail précaire, 23 mois, un bail 3, 6, 9, un bail amphithéotique, sur 99 ans, ou dans certains pays, les baux amphithéotiques durent 999 ans. Ça fait un bail, hein? Bon, en tout cas, ils étaient dans cette pièce ensemble pour la communion fraternelle, d'un commun accord. D'ailleurs, cette phrase d'un commun accord revient plusieurs fois dans le livre des Actes des Apôtres. Ils étaient ensemble, malgré toutes les différences qui pourraient les séparer, ils étaient ensemble, et là, ils étaient ensemble pour prier. Et quand des chrétiens sont ensemble, en principe, cela nous fait du bien. J'espère que cela vous fait du bien d'être avec des chrétiens, des frères et sœurs. Je vois souvent ce que Moïse a dit dans Nombre, chapitre 10. Nombre 10, Moïse dit deux fois, versets 29 et 32, il dit à un certain Obab, H-O-B-A-B, il dit, Obab, viens avec nous, et nous te ferons du bien. Et je me dis, mais c'est ça le commun fraternel. Viens avec moi, je te ferai du bien, mais je veux que toi, tu me fasses du bien. Ça doit être réciproque. On donne et on reçoit dans le commun fraternel. Et ici, pour les disciples, ils étaient ensemble, d'un commun accord, comme un seul homme. Et je me dis, mais ça ne devait pas être évident pour eux de s'aimer mutuellement les uns les autres. Je dis ça parce que Pierre, vous savez ce qu'il avait fait quelques semaines auparavant. Peut-être certains disciples lui en voulaient d'avoir renié le Christ. Il fallait que ses disciples lui pardonnent pour être ensemble. Je pense à Jean. Jean aurait pu se vanter. Et le mec, j'étais le seul à être présent lors de la crucifixion de notre maître. Vous étiez où, vous? Il aurait pu être en colère. Il aurait pu avoir une certaine fierté. C'est moi qui dois m'occuper de Marie qui va vieillir. C'est moi qui dois m'en occuper. Il y avait Thomas. Peut-être Thomas aurait pu être critiqué, mais Thomas, pourquoi est-ce que tu as dit que tu ne croirais pas si tu ne voyais pas? C'est ridicule, Thomas. Vous savez, Marie aurait pu revendiquer son besoin de calme dans cette période de deuil suite au décès de son fils. Mais on n'a aucune indication qu'il y avait des disputes. Ils étaient ensemble et Jésus leur a dit, allez à Jérusalem et attendez. Attendez. Ils ne savaient pas ce qu'ils devaient attendre, mais Jésus dit, allez et attendez. Et les disciples sont allés à Jérusalem et ils ont décidé d'attendre. Un petit détail par rapport à ce groupe ici au verset 14, c'est la dernière fois qu'on parle de Marie dans la Bible. Vous savez, il y a 12 ou 13 allusions à Marie dans le Nouveau Testament. On n'en parle plus après Actes 1, 14. Par rapport aux disciples, à part Pierre et Jean, on ne parle plus des autres disciples dans le Nouveau Testament. À part Pierre et Jean. On ne parle plus des autres disciples dans les Actes des Apôtres, pardon. Après ce texte. À part Pierre et Jean, qui reviennent plusieurs fois dans les chapitres suivants. Donc, ils étaient ensemble, et Dieu leur a fait du bien, parce qu'ils étaient ensemble. Et quand nous sommes ensemble, Dieu aussi veut nous faire du bien. Et pour terminer, quand ils étaient ensemble, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont prié. D'un commun accord, dans la prière. Il y avait plusieurs femmes, il y avait toute la famille de Jésus, ses frères et ses sœurs, la maman et les disciples. Ils priaient ensemble. Vous savez, un groupe de chrétiens, si ce groupe de chrétiens, que ce soit un groupe d'évangélisation, une équipe de disciples ou une église locale, si un groupe de chrétiens veut progresser ensemble, avancer ensemble, il est obligatoire qu'ils prient ensemble. Une église ne va jamais avancer si les membres de l'église ne prient pas. Une église ne va jamais progresser si les membres ne prient pas. Un couple, une famille. Si un couple, une famille chrétien veulent avancer avec le Seigneur, on ne peut pas mettre une croix sur la prière. Un couple chrétien, une famille chrétienne doit prier, prier, prier ensemble. Déjà, afin de rester ensemble, mais afin de pouvoir avancer ensemble. La prière, comme j'ai dit tout à l'heure, est un grand thème dans les Actes des Apôtres. On voit plus loin dans chapitre 1, les disciples prient pour connaître la volonté de Dieu. Au chapitre 4, les chrétiens prient pour avoir le courage pour témoigner. Au chapitre 6, Étienne prie juste avant de mourir. Au chapitre 8, il y a des chrétiens qui prient pour la conversion des non-chrétiens. Au chapitre 9, Pierre prie pour la résurrection d'une femme qui vient de décéder. Au chapitre 10, Corneille, qui n'est pas encore converti, prie, et plus tard, il se convertit. Pierre prie seul, dans son culte personnel, sur le toit, et Dieu lui parle au chapitre 10. Au chapitre 12, il y a un groupe de prières qui se réunit chez Marie. Et ce soir-là, chose étonnante, et il ne croyait pas, Dieu répond à la prière, et Pierre est libéré de la prison. Chapitre 13, il y a un moment de prière avant l'envoi des missionnaires. Chapitre 16, lors d'une réunion de prière pour femmes au bord d'une rivière, Lydie se convertit et plusieurs personnes se sont converties. Pendant un tremblement de terre, les chrétiens ont prié. Avant le tremblement de terre, les chrétiens prient aussi, dans chapitre 16. Après une réunion sur une plage en Turquie, Paul et des chrétiens prient. Pendant une tempête en mer Méditerranée, chapitre 27, les chrétiens prient, etc., etc. Est-ce que vous êtes des gens qui prient? Est-ce que vous aimez prier seul, en couple quand cela est possible, en famille quand cela est possible, ou en église? J'ai dit tout à l'heure que si nous voulons avancer ensemble en tant qu'église, ou en tant que couple chrétien, ou de parents chrétiens, la prière est non négociable. Pourquoi est-ce qu'il y a de plus en plus de divorces parmi des chrétiens évangéliques? Pourquoi est-ce qu'il y a de plus en plus de tensions, parfois cachées, chez des couples évangéliques? Quand on creuse, quand on pose des questions, quand on reçoit des couples en entretien, on se rend compte que lui ou elle, ou les deux, ne lisent plus la Bible depuis un certain temps. On se rend compte que les deux n'ont jamais prié ensemble. Ah, ben, t'as vu, parfois on prie à table pour dire merci pour le repas. Je vais vous être choqué, mais ça ne vaut rien. Si on est converti tous les deux, prier ensemble, c'est quelque chose de vital. Prier seul aussi est quelque chose d'important. Et si nous avons des enfants, qu'est-ce que c'est important de prier pour les enfants? Et là, je m'adresse à des parents et à des grands-parents. Qu'est-ce que vous faites pour contrecarrer et contredire tous les mensonges dont vos enfants ou vos petits-enfants sont bombardés tous les jours? Tous les jours, il y a des mensonges qui viennent de toutes parts pour nous convaincre, pour convaincre nos enfants des mensonges, des non-vérités. Et nous devons contredire tout cela. L'école du dimanche ne suffit pas. Une semaine de camp par an, c'est formidable, mais ça ne suffit pas pour contredire tous ces mensonges, tous ces mauvais messages, tous ces messages destructeurs et négatifs. La bataille se gagne ou se perd à la maison. À la maison, nous devons prier pour nos enfants, nous devons prier avec nos enfants, nous devons passer du temps avec eux, nous devons leur parler, nous devons les écouter, nous devons leur enseigner la Bible, nous devons lire la Bible avec eux, les encourager à lire la Bible seuls, être prêts à répondre à toutes leurs questions et être prêts à leur dire ce que Dieu dit, ce que Dieu pense de telle ou telle chose qui se passe dans la vie de tous les jours. Nous devons contredire, contrecarrer tous ces mensonges terribles. Et c'est un travail de longue haleine. Une semaine comme ça ne suffit pas. C'est toute la vie qu'il faut le faire. Mais heureusement, nous avons l'aide d'en haut, la puissance d'en haut, le secours d'en haut, en tant que parents et en tant que grands-parents. Donc il s'agit d'une question d'influence, une question d'ambiance. Est-ce qu'il y a une bonne ambiance chez vous? Une question de confiance. Et je dirais même une question d'obéissance au Seigneur. Nous devons enseigner la parole de Dieu à nos enfants. Et j'ai déjà dit ici plus d'une fois que le livre de Deutéronome est un livre formidable par rapport à la vie des familles. Et les responsabilités du papa d'enseigner le livre à ses gamins. Enfin, je crois que Moïse n'emploie pas le mot gamin. En tout cas, vous avez compris. Alors, je conclue. Dans un monde où il y a beaucoup de virtuels, j'étais étonné l'autre jour, je cherchais quelque chose sur le site EDF, et tout d'un coup, un dessin apparaît sur l'écran. Je suis votre conseiller virtuel. Je m'appelle, je ne sais pas quoi. Posez-moi des questions. Il y a même des conseillers virtuels. Mais dans un monde où il y a beaucoup de virtuels, et virtuel c'est le contraire, je dirais, du réel, n'oublions pas qu'il y a des choses réelles. Il y a la réalité de la vie, la réalité du combat spirituel, la réalité de la présence de Dieu dans notre vie. Il y a des choses réelles et nous devons nous fier uniquement à ce qui est réel et vrai selon la parole de Dieu. Deuxièmement, dans un monde qui part à la dérive, demandons au Seigneur de nous aider à être des témoins intentionnels, des témoins qui saisissent des occasions, mais des témoins qui témoignent aussi pas que par les paroles, mais surtout par la vie. La parole et la vie, ça va ensemble. Mais prions que Dieu fasse de nous de véritables témoins. Et dans un monde où il n'est pas évident d'être disciple, prions, prions, prions. Que Dieu nous aide à tenir bon, que Dieu nous aide à rester fidèles, et que Dieu nous aide à être des chrétiens dans nos familles, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365, et l'année prochaine, 366 jours sur 366. Être des témoins, être des chrétiens, à tout moment, ça peut avoir une influence sur nos enfants, nos petits-enfants, nos parents, nos conjoints, nos amis, nos familles. Que Dieu nous aide à être des témoins fidèles tous les jours. Amen.